Marcher vers le bien-être avec Denis Chagnon.
Chers amis, bonjour et bienvenue à Marcher vers le bien-être. Aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir en studio de la très belle visite avec qui nous allons nous entretenir du chemin de Compostelle. Le Camino est bien sûr un sujet de prédilection pour les marcheuses et marcheurs. Mais il y a tant de façons de l'aborder et pour nous en faire la démonstration, j'ai invité deux enthousiastes de ce parcours qui a déjà transformé tellement de vies. D'abord, Anne Saint-Hilaire, présidente et fondatrice du Centre La Tienda à Verdun. Et comme nous allons le découvrir au cours de l'émission, La Tienda est beaucoup plus qu'un lieu où s'équiper pour la marche. C'est un lien de partage, d'échange et de diffusion d'informations sur les activités pédestres, dont, bien sûr, les randonnées de longue durée et Compostelle. Et pour nous accompagner dans notre exploration, l'auteur et éditrice Martine Noël-Ma. Martine est née à Rouyn-Noranda et vit présentement à Regina. Elle nous apporte avec elle le vent de l'Ouest, de la Saskatchewan, n'est-ce pas? D'ailleurs, elle a remporté plusieurs prix pour ses romans et pièces de théâtre. Au cours de l'émission, elle nous présentera son roman sur Compostelle intitulé « 3 millions de pas ». Merci beaucoup à vous deux d'avoir accepté notre invitation. Et vous, Martine, c'est un premier retour au Québec depuis le début de la pandémie. Ça doit faire du bien de retrouver famille et amis.
Oui, en effet, ça fait du bien. La dernière visite à Montréal remontait au Salon du Livre en 2019. Alors, d'avoir dû se sevrer pendant toute une année de cette grande rencontre, cette grande fête du livre où nous, on se retrouve entre auteurs, on retrouve les éditeurs et on retrouve les lecteurs et les médias. Ça a été un manque l'an passé, même si le salon était quand même, il y avait une version en ligne. Mais là, d'y retourner de plein pied dans un nouveau lieu. En plus, on quitte la place Bonaventure pour le centre des congrès, le palais des congrès.
Vrai, oui,
ouais, ça fait du bien.
Et vous êtes très active dans la communauté francophone dans l'Ouest, donc depuis de nombreuses années, surtout en littérature, mais aussi au niveau de la promotion de la culture française.
Oui, depuis 2007, je travaille, je collabore avec le conseil d'administration des éditions La Nouvelle Plume, qui est le seul éditeur francophone à l'Ouest, qui était à l'époque le seul éditeur francophone à l'Ouest de Winnipeg, et maintenant il y en a à Vancouver. Alors, je collabore avec eux. J'ai été aussi présidente du Conseil culturel francescois, donc qui chapeaute toutes les formes d'expression culturelle dans la province. Donc, ça me tient très à cœur.
Formidable. Alors, écoutez, pour amorcer la conversation, j'aimerais vous poser deux questions. Et la première, tout simplement, qu'est-ce qui vous a motivé à entreprendre la grande aventure de Compostelle, Anne?
La grande aventure, effectivement, c'est, on entreprend et on reste dans cette aventure. Dans mon cas, à moi, ça a été la recherche de me remettre en forme suite à une opération. On m'a enlevé la glande thyroïde en 2005. Ça devait durer un mois d'invalidité et dans mon cas, ça a duré 2 années. Si je suis comme descendue en enfer, mon corps cherchait la glande, si on veut. J'étais en hypothyroïdie. Et l'hypothyroïdie, c'est le même symptôme que la dépression majeure. Alors, dépression majeure, tu pleures ta vie, tu te cherches, on te donne des médicaments qui s'appellent, bien sûr, les antidépresseurs. Pour certains, ça fonctionne. Dans mon cas, c'était épouvantable. Les effets secondaires étaient majeurs. Des idées de suicide, d'automutilation. J'étais pourtant une dame très active, du vélo, de la marche. Je faisais beaucoup d'activités et là, je tombe à zéro, plus rien et je pleure ma vie. Alors donc, un matin, je me réveille, je regarde au plafond et je dis, mais qu'est-ce que je peux faire pour enlever tous ces médicaments de mon corps? Parce que là, c'est terrible ce que je vis. Et c'est là que je reçois l'appel de « Compostelle ». C'était très fort dans ma chambre, dans ma tête, dans mon cœur. Ouais. Mais j'avais une peur, j'avais jamais voyagé.
Alors,
jamais voyagé. Alors, il y a des gros défis qui s'installent à l'intérieur de mon cœur, de ma tête. Tu sais, tu vas pas bien, puis là, t'as cet appel qui t'amène à te dépasser. Alors donc, mon objectif, c'était vraiment de transpirer le plus possible, comme je connaissais la transpiration en sport. Je faisais du spinning. Ceux qui connaissent le spinning, l'on transpire des oreilles. Et c'est là que je me suis dit, tiens, je vais partir faire Compostelle. On connaît, quand on commence à faire un peu de recherche, on sait que les 100 derniers kilomètres de ces chemins-là nous permettent d'avoir un certificat qui s'appelle la Compostella. J'ai toujours dit dans la vie, c'est pas la réponse qui est importante, c'est la question. Parce que la réponse, on les connaît, mais c'est les questions pour nous amener à la meilleure réponse qui c'est difficile. Moi, je viens du monde des services financiers. Est-ce que j'aimais ça, les services financiers? Non. Est-ce que j'étais bonne en informatique? Oui. Je la connais, la réponse. Mais qu'est-ce que j'aime, moi, justement? Alors, c'est de là que je me suis dit, OK, est-ce qu'avec 100 km, j'aurais assez transpiré? Et la réponse, c'était non. Alors, j'ai dit, tiens, je vais faire 100, les 800 km, le traditionnel chemin Camino Frances. Et là, je me disais, waouh, mais j'ai jamais voyagé, je parle pas espagnol, j'ai peur. Alors, j'ai vu par un livre qu'on m'avait offert sur Compostelle qu'on pouvait partir du Mont-Saint-Michel. Alors, j'ai dit, ah, super, c'est un rêve que j'avais, ça parle français, voilà, c'est de là que je vais partir. Alors, tout ça pour dire que écouter son cœur, savoir se poser les bonnes questions va nous amener sur des chemins qu'on ne connaît pas nécessairement, mais quand on a l'appel, ben, je pense qu'il faut répondre. C'est comme un téléphone qui sonne dans notre vie. T'sais, si on ne répond pas, ça va sonner tout le temps.
Et il n'y a pas de répondeur.
Il n'y a pas de répondeur, exactement.
Et Martine, la grande aventure, qu'est-ce qui l'a provoquée?
La grande aventure, ben moi aussi, comme Anne, j'ai toujours été pas mal active du vélo, du ski de randonnée, mais mon favori, c'est le patinage et le ski alpin. Quand je suis déménagée dans les prairies en 93, j'ai fait une croix sur le ski alpin. Et j'ai quand même poursuivi avec le ski de randonnée, mais la marche, parce qu'en arrivant en Saskatchewan, j'ai eu l'impression d'arriver à la maison quand j'ai vu plaine, quand j'ai vu l'horizon sans fin, le ciel immense qui nous aspire. Moi, j'arrivais à la maison et j'ai toujours adoré marcher dans les sentiers de la Saskatchewan. Alors, j'aurais pu marcher, faire de 200, 300, 400 kilomètres en Saskatchewan, sauf qu'on aurait dû transporter tout l'équipement parce que c'est tellement peu densément peuplé qu'on pourrait marcher une semaine avant de rencontrer un autre village. Alors, un jour, j'ai entendu parler du chemin de Compostelle et il y a un ami, un bon ami qui m'en a parlé. Et de fil en aiguille, j'ai entendu une entrevue de Marcel Leboeuf qui parlait justement de son voyage à Compostelle. Et ce jour-là, mon ami était chez moi pour le lancement de mon premier roman. Donc, c'était en 2004. Alors, je lui dis à cette personne en question, j'ai dit « Moi, j'y vais ». Toi, je ne sais pas, mais moi, je vais faire Compostelle.
Oui.
Et en septembre, au mois d'août 2005, je suis partie. Et mon mari m'a accompagnée parce qu'il ne voulait pas me laisser tout seul.
On peut se perdre facilement là-bas. Donc,
oui.
C'était en quelle année, Anne? C'était le premier?
Moi, c'était en 2008.
Oui.
Et si je fais un pont un peu sur ce que tu dis, Martine, j'avais lu le livre de Paulo Coelho au début des années 2000 et je connaissais Paulo avec l'idée qu'il est un auteur extraordinaire puis qu'il invente des choses fantastiques, dont le pèlerin de Compostelle. Mais pour moi, dans ma tête, c'est une invention de Paulo Coelho. Et justement, dans le cadre des services financiers, on est dans un gros congrès au Mont-Tremblant, les assureurs, les courtiers, et justement, revient Marcel Leboeuf de Compostelle. Et là, je dis, hein, ça existe pour vrai, ça? C'est pas un roman inventé de toutes pièces par Paulo Coelho? Alors, on a ce point en commun de Marcel Leboeuf qui nous a mis sur le chemin, entre autres.
Donc, vous êtes parties toutes les deux, Anne toute seule, bien sûr.
Oui.
Et Martine avec Tim.
Oui.
L'époux précieux, adoré.
L'époux précieux, oui.
Bon, qui est ici aussi en studio, qui nous écoute. Alors, vous êtes parti et vous avez parcouru Compostelle. Nous allons y revenir en détail plus tard, mais grosso modo, comment cela a changé le parcours de votre vie? Comment Compostelle vous a amené à bifurquer, à prendre un autre chemin? Anne?
Quand on entreprend une grande aventure comme celle-là, où on apprend qu'on va marcher pendant des semaines, voire des mois avec un sac à dos et apprendre qu'on n'aura que notre sac en ravitaillement. Et les images de Compostelle, souvent, justement, il va y avoir les plaines, la Meseta qu'on connaît bien, les montagnes. Puis là, on se dit, mon Dieu, mais je vais manquer de quelque chose. Je vais mourir de faim, de soif. Je vais me briser une cheville. Tu sais, les peurs, oui, c'est facile.
Oui, tout à fait.
Alors, je suis partie avec un immense sac à dos, rempli de peurs et des inutiles. On en veut pour tout le monde. Hein. On veut aider le monde quasiment en faisant ça. Et j'avais l'émotion de me dire, mais pourquoi que j'ai toutes ces choses-là dans mon sac? Pourquoi je dois tant magasiner pour trouver des trucs? Pourquoi? Et naissait en moi au fur et à mesure le résultat de cette expérience-là, et je déteste magasiner. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? J'aime pas ça. Je ne fais pas partie des gens qui aiment ça. Et de prendre ma voiture pour aller partout dans les magasins et de me retrouver vers l'insécurité et les peurs aussi, oui, qu'on nous transmet. Mm-hmm. Ça va vous prendre des bottes parce que vous allez vous casser une cheville et tal et tal. Alors bref, les émotions naissaient en moi et je me suis dit à la fin complètement du chemin, après avoir marché finalement 1400 km, ça a métamorphosé ma vie et je me suis dit, je veux vraiment vivre de ce chemin-là, mais de redonner au suivant, de favoriser l'émerveillement, enlever les peurs des gens pour que les gens partent plus légers tout de suite au départ, parce que je pense pas que c'est nécessaire de souffrir pour être une bonne personne. Alors, l'idée de devenir une ressource, un puits, dans le fond, un centre où les gens puissent venir, parce qu'on sait aussi qu'après avoir marché tant de kilomètres, on a besoin d'une oreille pour nous écouter. Il faut... Alors, en fait, c'était le rêve que j'ai fait en marchant tous ces kilomètres-là, de me retrouver avec les gens, avec le monde. Et bien sûr, aujourd'hui, je suis vraiment très heureuse de l'avoir fait. C'est né aussi, vraiment, je ne sais pas si je peux raconter ma petite anecdote de l'aéroport à Paris.
Allons-y, puis nous allons parler un peu plus du centre, mais c'est délicieux, cette anecdote.
Ouais. Oui, c'est particulier. Quand on dit écouter son cœur, je suis donc à Paris en attendant mon avion de retour pour le Québec après 4 mois. Et là, j'ai vraiment peur, je ne veux pas retourner dans les services financiers. Et quand on dit, quand on veut, on fait, et quand on sait le pourquoi, on trouve le comment. J'ai pas de papier sous la main. Je prends une serviette de table et là, je commence à écrire en écriture automatique. Et tous les points du centre La Tienda sont énumérés point par point sur cette serviette de table que j'ai encadrée dans le centre, justement, parce que c'est devenu le premier plan d'affaires de La Tienda, écrit sur une serviette de table à Paris. C'est juste écouter son cœur, écriture automatique, laisser aller ce qui nous porte le plus à l'intérieur de nous pour nous faire avancer.
C'est formidable.
C'est magnifique.
Et Martine?
Comme Anne, j'ai fait carrière dans le monde corporatif, donc en communication, en ressources humaines, en dotation, relations de travail, équité en matière d'emploi, langues officielles, j'excellais. Mm-hmm. Mais le matin, quand venait le temps de partir de la maison, je pleurais parce que je devais laisser mon âme à la maison.
Ouais. Oh, ça,
et ça, mon mari en a été témoin. Ouais. Et c'est pour ça qu'en 2000, quand j'ai décidé de prendre un congé sans solde d'un an pour écrire mon premier roman, ça faisait 3 ans ou 4 ans que j'essayais d'écrire ce fameux roman. Et j'y arrivais jamais parce que même si j'avais réduit mes heures de travail, je passais quand même beaucoup de temps qui était censé être mon temps personnel à la maison, à refaire plus de travail pour le bureau. Alors, c'est à la fin de l'année 2000 où là, j'ai tiré la plug du monde corporatif pour me lancer dans l'écriture sans rien connaître vraiment là, du processus de publication, même si j'avais étudié en littérature. Et c'est là que j'ai commencé, que j'ai appris vraiment à me faire confiance. Me faire confiance que, oui, la page, elle est blanche, mais dès que je mets quelques mots sur le papier, comme Anne disait, quand on dit à son égo de se tasser le chemin et qu'on laisse vraiment notre cœur parler, bien, le roman, il s'est écrit en 5 mois. Alors, quand je suis partie sur le chemin de Compostelle, c'était une chose que j'avais apprise déjà, donc à me faire confiance. Donc, je suis partie avec mon sac à dos, une fois tout garni, là, il pesait entre 5 et 6 kilos.
Bravo!
Parce que je savais que même si je mesure 5 pieds 9, que je ne pouvais pas transporter 10 kilos ou 20 kilos comme des gens que je connais qui l'ont fait et qui se sont vraiment brisé le dos. Oui. Alors, je suis arrivée avec de la confiance et en sachant que à chaque pas, il va se présenter quelque chose de nouveau. Comme les oiseaux qui ne savent jamais d'où va venir leur prochain repas, on avance.
Oui. Oui.
Et j'ai toujours été, c'est quoi le mot donc? Il y a toujours eu une gratification parce que j'ai toujours trouvé autre chose. Comme dans les projets d'écriture, dès que je commence un projet d'écriture où je me dis ce sera peut-être le dernier, il y en a un autre qui se pointe à l'horizon.
Oui.
Alors c'est vraiment comme la marche.
Et ce premier roman, le titre?
Dans le pli des collines.
C'est celui-là, ça c'est le premier.
Oui.
Il est excellent aussi, c'est un peu, c'est pas un roman policier, mais il y a une intrigue,
mystérieuse.
Oui. Oui, c'est ça, oui, excellent. Ben, écoutez, nous prenons une courte pause et nous revenons, Anne, à la description du centre La Tienda, la serviette de table qui prend vie.
Oui.
Nous sommes toujours en compagnie de Anne Saint-Hilaire et de Martine Noëlman. Alors, Anne, la serviette de papier, les mots des boules, ça devient concret. Comment vous avez lancé tout ça?
Alors, on ne sait jamais la vie, qu'est-ce qu'elle va nous apporter. Comme on disait tantôt, on va suivre notre cœur. Cette serviette de papier, je l'ai mise dans mon bagage, mais elle avait une place super importante dans ma vie. Alors, je rêvais de vivre de Compostelle, c'en était le vœu que j'avais fait. Quand j'étais rendue sur le Camino Francés, j'étais à la Cruz de Ferro, où on propose de déposer quelque chose et d'en faire un rêve, un vœu ou une pensée pour quelqu'un. Alors, moi, j'avais fabriqué des petites coquilles Saint-Jacques là, pour financer mon voyage.
Ah oui,
oui.
Ah, joli.
Parce que ça faisait 2 ans que j'étais en arrêt de travail, donc presque plus d'argent. Et j'ai donc vendu beaucoup de ces petites coquilles-là pour financer billets d'avion, billets de train, tout ça, c'est concrétisé. Alors, j'ai déposé une coquille et je me disais, je rêve de vivre de Compostelle. La serviette de table est un complément d'objet direct à ce rêve-là. Alors, quand je reviens de l'Europe, je me mets à lire des articles. Je trouvais quelqu'un qui voulait faire Compostelle. Je m'en allais offrir mes services. Je voulais l'accompagner de façon très personnalisée. Et ça fonctionnait. J'étais heureuse de voir comment ça répondait. Et j'avais beaucoup souffert du matériel que j'avais apporté sur le chemin. J'avais tous mes vêtements de vélo en synthétique. C'est l'horreur. Je puais après 15 minutes. J'étais ratatinée d'humidité. C'était l'enfer. J'avais un poncho le vent rentrait en dessous, l'eau rentrait, c'était épouvantable. Et je voyais des Européens qui avaient un genre d'imperméable qui ouvrait en avant avec des manches. J'ai dit, mon Dieu, mais pourquoi qu'on n'a pas ça au Québec? Ça prenait encore plus forme. Alors, je me suis mise à importer des ponchos que je mettais sur mon piano. Et que là, je disais, ah, quelqu'un veut faire composer. Tiens, j'ai des ponchos extraordinaires. La fameuse serviette qu'on voit aussi beaucoup pour la randonnée, qui est en chamois. Je suis incapable de toucher à cette matière. Ça me donne des frissons jusque dans les oreilles. Alors, je me suis mise à acheter du tissu. Je coupais en forme de grande serviette. Même si je suis petite, j'aime ça m'enrouler, mais que ça soit léger. Et là, je mettais mon seau là-dessus, le seau de la tienne. Bref, je naissais tranquillement. par mes actions. Et là, j'ai un de mes amis, de grand ami que je remercierai jamais assez, Michel Paquette, qui me voyait aller de loin, puis il dit, hey, non, mais tu y crois vraiment, ton affaire, toi? Et là, il a donné le coup de pouce financier pour que, justement, la tienda voie le jour officiellement. Donc, on a commencé avec un tout petit local de 450 pieds carrés. C'était une petite boîte de bois. C'était dans le sens que c'était des murs de bois. Puis, c'était tellement petit, là, très petit. Et après 6 mois, waouh, il y a du monde qui arrive. C'est épouvantable. Donc, là, on commence à penser à déménager, acheter plus de produits. Je ne connaissais rien du commerce de détail. C'était une aventure incroyable. Mais c'est devenu justement le rêve de ma vie. Une boutique, oui, parce que, comme je disais, je déteste magasiner. Alors, on trouve tout. C'est un arrêt et on trouve tout. Mais avec le service qui va avec et l'écoute. Quel projet on s'en va faire? Connaître sa marchandise. La rencontre humaine par le comptoir café qui est très accueillant. Combien de gens qu'on a vu s'asseoir et soit verser des larmes, rêver, décider de partir. C'est un café rencontre en même temps. C'est là où les gens aussi viennent présenter leur voyage. C'est un centre où on a des conférences, où la rencontre humaine, l'échange. La pandémie nous a tellement privés de cette rencontre-là.
Oui, effectivement.
Alors, puis j'aimerais ça vous accueillir à la tienda Martine pour nous parler de votre livre. C'est aussi notre façon de voyager et les gens ont goût. En fait, c'est une porte ouverte. C'est un centre avec une porte ouverte où les gens peuvent rentrer quand ils le souhaitent pour justement venir prendre des informations. On est devenu, imaginez, j'avais écrit billet d'avion sur ma serviette de table. J'avais jamais voyagé. Si vous saviez comment j'ai eu peur d'acheter mon billet d'avion en 2008, j'en fatiguais mes amis. Je regardais sur Internet, puis là, il dit « Anne, enter, enter. » Ah, t'es sûr, j'ai peur. Alors, j'ai maintenant une agence de voyage. Imaginez, fait que les personnes peuvent avoir du clé en main. Partez marcher, faites-vous du bien. Puis tout le côté logistique, on va s'en occuper. Alors, je crée des produits maintenant. Je suis très fière de ça. Création de produits, les ateliers d'espagnol. Moi, je parlais pas espagnol quand j'ai fait le chemin en 2008. C'était comme marcher avec des écouteurs puis du duct tape sur la bouche. Là. Tu peux rien dire. Puis quand ils parlent, tu comprends rien. Alors, pour faciliter, je me suis dit, donnez au suivant. On a des ateliers basés sur le voyage pour justement que les gens puissent s'émerveiller. Et j'assiste toujours au premier et au dernier cours. Je le dis toujours au premier. Vous allez voir, vous allez vous dire, mais mon Dieu, qu'est-ce que j'ai pris comme décision? Un cours le mardi soir, j'ai d'autres choses à faire. Et à la fin, le monde, ils sont tellement émerveillés de prendre confiance. En fait, c'est un centre où on brise l'isolement et on donne confiance aux gens pour partir faire cette aventure qui change pas toujours la vie de tout le monde, mais ne laisse personne indifférent. On revient de Compostelle avec des images, des rencontres de l'international. C'est riche, c'est une énergie qui défile et ça laisse pas personne indifférent. Alors, c'est vraiment l'objectif du centre et oui, je suis vraiment très heureuse. Il ne reste qu'un point à créer par rapport à cette serviette de table, qui est avoir un lieu à la fin du chemin où les gens, justement, vont finir leur chemin et revivre le point central avant de revenir dans le quotidien, qui, ça, peut faire un sujet de conversation incroyable au revenir.
Donc, tout ça est parti de votre premier Compostelle. Lorsque j'ai visité votre centre à quelques reprises pour faire ma recherche, pour être bien certain de l'envergure de votre projet, ce qui m'a frappé, effectivement, c'est ce que je disais en début d'émission, c'est beaucoup plus qu'une boutique, c'est beaucoup plus qu'un magasin ou une ressource matérielle, un café, oui, c'est bon. C'est vraiment pour moi un centre culturel presque. Et ce qui m'a frappé le plus, et j'aimerais vous entendre parler sur ça, parmi les gens qui viennent à votre centre, la tienda, ce sont des gens qui, écoutez, je ne penserais pas qu'ils voudraient faire Compostelle, comme on dit. Ça ne m'apparaissait pas comme le genre de personne qui va partir en voyage pour une longue durée. Et c'est ce qui m'a frappé beaucoup, c'est un peu accessible. C'est monsieur et madame tout le monde pour utiliser cette expression.
C'est très important pour moi que ce soit ça. Pour avoir été avant Compostelle faisant partie du monde, beaucoup, comme je disais, du cyclisme, il y a la performance, il y a les coureurs, il y a ça. Et il y a monsieur, madame, tout le monde qui vit... il y a toutes sortes de raisons de faire Compostelle. Hein. Toutes les raisons sont bonnes. Il y a autant de raisons que de gens qui partent, prennent le chemin. Mais comme un livre peut nous allumer une étincelle d'espoir, ça peut être un deuil, ça peut être un changement de carrière, ça peut être la recherche de la bonne question pour avoir la meilleure réponse. Ça peut être oui au niveau physique, comme moi au départ c'était. Il y a tellement de raisons et c'était tellement important pour moi que ce soit accessible à tout le monde. Le jugement, c'est terrible. Quand on juge des gens, qu'on dit « Mon Dieu, ne sera jamais capable de faire Compostelle. » Non, non, on va l'aider de la meilleure façon pour qu'elle atteigne ses propres étapes avec légèreté, gratitude, joie, parce qu'on ne sait pas, hein, la vie, elle est tellement fragile. J'aurais pu ne pas être ici pour en parler. Ça, c'est tellement du concret. Ça fait maintenant 10 ans que la tienda existe. Il y a des clients que j'ai vus passer qui ne sont plus là. Des couples se former. Des gens de première allure, tu te dis non, ça, c'est vraiment quelqu'un qui ne pourra jamais composer. Attends, pose des questions. Peut-être qu'il a lu un livre aussi. Peut-être que on ne le sait pas. Donc, j'aime bien dire, on pose des questions et oui, tout le monde peut le faire. Que ce soit 5 km par jour, bravo. Que ce soit 10, que ce soit 15, que ce soit 20, que ce soit 25, mais de grâce, ralentissons en marchant pour apprécier à être en contact avec la nature, avec le chemin, parce qu'on dit, marcheur, il n'y a pas de chemin, se fait le chemin en marchant. Caminante no hay camino, c'est assez camino al andar. Alors, c'est pas la destination qui est importante et c'est ouvert à tout le monde de tous âges. Les bébés auront leur propre expérience. Les personnes plus âgées qui ont donc plus d'expérience, peut-être des mauvais plis aussi. Donc, ralentissons puis rencontrons tout cet amalgame de gens. Alors, oui, c'est un centre où comme j'aime dire quasiment, c'est un centre d'accueil pour gens heureux.
Hein? Oh, c'est joli. Excellent.
En tout cas, ils deviennent heureux, ça, c'est sûr.
Donc, il y a le centre, bien sûr, mais il y a aussi les randonnées, les voyages de Compostelle, et vous en avez fait plusieurs, évidemment, depuis les années. Parlez-nous un peu de la transformation de certains participants et participantes que vous avez accompagnés. Sûrement qu'il y a des cas exceptionnels de gens qui se sont transformés en l'espace de quelques semaines.
Oui. On a justement l'agence de voyage existe encore là dans la légèreté. On est une agence, on fait des groupes maximum de 12 personnes et qu'on aime dire que c'est en liberté. Il n'y a personne qui pousse, il n'y a personne qui tire. On marche chacun à son rythme. Le fait que ce soit organisé et qu'on a juste à suivre des flèches sur le chemin de Compostelle, on sait que ça fait un grand bien mental. On n'a pas à se questionner, il faut que je tourne à gauche, à droite, il y a 3 sentiers, mais sur le plan, il y en a 2, qu'est-ce que c'est? Non, tu suis la flèche.
Oui.
La transformation des clients, une des participantes, à un moment donné, on est sur la plage près de la fin du chemin, on arrive près de Mouchia, et elle me dit, Anne, je ne savais pas que j'avais autant d'énergie en moi. Et c'était une dame qui, justement, était en dépression avant de partir. Elle était dans une carrière qu'elle n'aimait pas. Et le fait de marcher à tous les jours, la sérotonine, l'endorphine, la dopamine, l'ocytocine, toutes ces hormones de bonheur-là, font en sorte que les participants... C'est comme une fleur qui naît, hein, qui s'ouvre au fur et à mesure. Il y en a qui disent « Hey, t'as marché 1000 km, tu dois être fatigué. » Non, c'est l'inverse.
C'est l'inverse.
Énergisée. Alors oui, les participants nous le disent et le refont et refont. Et le dépassement de soi, la perte de repère en suivant une flèche, de ne pas se sentir... parti, mais plutôt perdu, mais plutôt de se sentir accueilli par le chemin. fait en sorte que, oui, les voyages de groupe, c'est fantastique aussi. C'est un privilège. Oui, je l'ai fait plusieurs fois. Et de voir le début, le stress hein, du début, puis à la fin où les gens sont légers de leur, mm-hmm. par leur corps, on le voit, corporellement parlant, il y a un émerveillement.
Ça se manifeste même.
Oui. Il y a un lâcher prise. Il y a un client, c'était tellement beau de le voir, raide comme une barre à l'aéroport, mais raide, raide, cérébral.
Oui.
Puis à la fin, il y a le gorloton et le trémolo. Il ne veut pas revenir. Puis c'est un voyage juste de 2 semaines, mm-hmm. imaginez.
Oui.
Ça, c'est une image qui va me rester marquée le reste de ma vie.
Et il y a plusieurs exemples, évidemment.
Ah, il y en a tout plein.
Oui. Écoutez, nous prenons une autre pause. Il y a un autre projet que vous avez, mais je vais vous en reparler un tout petit peu plus tard parce qu'il me tient à cœur aussi.
Bravo.
Alors, petite pause, on revient. Nous sommes en compagnie de Anne Saint-Hilaire et de Martine Noël-Ma. Alors, Martine, ce livre, 3 millions de pas. Pourquoi 3 millions de pas?
3 millions de pas. Quand j'ai fait la première marche sur le chemin de Compostelle, je me suis amusée à compter mes pas d'une borne à l'autre. Donc, il y a des bornes à tous les kilomètres. Et donc, je suis arrivée à, je me souviens plus c'était combien de pas. Mais lorsque j'ai commencé à créer le roman, donc la jeune fille, Laetitia, elle habite, disons, à la sortie de Rome, donc au nord de Rome. Donc, mm-hmm. elle a fait le Camino italien. Ensuite, elle a traversé la France et elle a fait le Camino français du côté de l'Espagne. Et donc, avec le nombre de kilomètres que tu comprennes, les trois sentiers, ça arrive à environ 3 millions de pas.
Alors, Laetitia et son périple sur Compostelle ne se situent pas aujourd'hui, parce que les livres de Compostelle aujourd'hui, et la plupart sont émouvants comme témoignage, et ce sont par des auteurs qui ont une plume excellente. On se délecte à lire ces récits, mais ce ne sont que des récits personnels, justement, de leur propre expérience sur Compostelle, aujourd'hui ou il y a quelques années, bien sûr. Votre roman est situé dans un autre siècle.
Mon roman est situé à la fin du 19e siècle.
Et pourquoi?
La raison pour laquelle je ne l'ai pas situé aujourd'hui, c'est à cause du maudit téléphone cellulaire qui m'a tellement emmerdée sur le chemin de Compostelle, d'entendre les sonneries, d'entendre les klaxons, d'entendre les gens se disputer avec leurs parents au téléphone, de voir une dame avec qui on marchait qui avait la paralysie cérébrale. Et un jour, alors qu'on descendait une montagne, on a appris assez rapidement que de descendre une montagne, c'est beaucoup plus facile de le faire à reculons mm-hmm. que de front. Alors, elle descendait la montagne tranquillement quand son téléphone cellulaire a sonné. Elle a été tellement surprise qu'elle a tombé à la renverse et elle a déboulé une partie de la montagne. Donc, quand on arrive au refuge, c'est la course féroce pour trouver des prises de courant ou charger le téléphone. Donc, ça m'a vraiment dérangée. Et moi, quand j'ai fait le Camino les deux fois, je n'ai pas apporté de téléphone. Donc, j'étais vraiment à la merci et libre et bon, je devais compter souvent sur la chance pour trouver ce que je cherchais. Mais c'est pour ça que je l'ai situé dans une époque où il y avait, où il y avait un peu moins de monde aussi sur le chemin. Les gens faisaient les gens ne faisaient pas le chemin à la course ou à vélo. À cette époque-là, il y en avait qui le faisaient encore à cheval. Moi, j'ai rencontré, tu as peut-être croisé aussi des gens, Anne, qui l'ont fait avec leur cheval. Mais c'est ça, moi, je voulais épurer un peu l'atmosphère.
Et c'est une toute autre histoire que Compostelle, qu'on pourrait dire contemporain, c'est-à-dire qu'il n'y avait pas ce genre de recherche intuitive, spirituelle ou quoi que ce soit. Tout au contraire, Laetitia, l'héroïne, cherchait son père.
Elle cherche son père parce qu'un matin, elle s'est levée lorsqu'elle avait 9 ans et son père n'était plus à la maison. Son atelier était abandonné, tous ses outils étaient restés là et papa avait disparu. Comme ils habitaient en bordure de chantier et que souvent son père aidait les pèlerins, elle s'est créée une fable selon laquelle son père était parti à la suite des pèlerins. Alors elle s'est mise à rêver de partir sur le Camino pour retrouver son père.
Et c'est une histoire qui, par moments, est assez dure aussi. Il lui arrive toutes sortes d'aventures très difficiles, très pénibles.
Oui, c'est pas une histoire pour les enfants. Et mais je me suis beaucoup nourrie, surtout dans ma deuxième expérience sur le Camino, quand je suis allée marcher seule, parce que je devais y retourner seule pour vraiment comprendre comment elle avait pu réagir, ce qu'elle avait pu ressentir. Parce que quand je l'ai fait avec mon mari, j'avais quand même une certaine sécurité. Mais en repartant toute seule, il y a plusieurs aventures que j'ai transposées dans le roman, mais les aventures que j'ai vécues, comme de se faire servir de la charogne au souper dans des refuges ou d'avoir peur d'être attaqué. Lorsqu'à la croisée d'un chemin, on voit un homme qui est en train de limer d'affûter la lame de son couteau et que ça fait 2 heures qu'on n'a vu personne et qu'on a peur. Alors, j'ai poussé ces aventures-là un peu plus loin avec Laetitia. Et lorsque Anne disait tout à l'heure qu'un de ses projets, ce serait de créer une station à la toute fin de la marche où les gens pourraient se regrouper, se retrouver et partager avant de retraverser l'Atlantique, ben, c'est ce que j'ai fait vivre à mon héroïne. Quand on arrive au Cap Ferro, à Fisterra, il y a la statue d'une pèlerine. Et j'ai imaginé que cette pèlerine-là, elle représentait ma Laetitia et que les gens lui avaient érigé une statue parce qu'elle avait construit le dernier, elle avait acheté un abri de pêcheur et qu'elle avait construit le tout dernier arrêt du chemin pour que les gens, justement, puissent reprendre des forces avant de repartir.
Et donc... L'inspiration pour le livre, c'était justement la jeune fille qui cherche son père, qui arrive au bout à Finistère. Maintenant, Finistère, Anne, vous me disiez que ce n'est peut-être pas tout à fait la fin du Compostelle.
En fait, beaucoup de personnes qu'on rencontre à la tienda vont dire je veux faire le chemin et ils font référence beaucoup au Camino Francés dans ce temps-là. Il y a beaucoup de chemins, beaucoup plus que le Camino Francés. Et là, je vais leur poser la question, mais jusque où vous voulez aller? Ben, jusqu'à la fin, oui. Et c'est où la fin? Ben, Santiago. Ah, mais saviez-vous qu'on peut continuer jusqu'à la fin de la Terre? Donc, Fistera, Finistère, fin de la Terre, qui est 1,0 km. Mais à mon avis, la fin du chemin... C'est plus à Muxía. Muxía, ça s'écrit M-U-X-I-A. En gallego, on dit Muxía. Où ça va être c'est un petit village de pêcheurs où le calme, il est là. Le son de l'eau, de la mer, Costa da Morte. Costa da Morte, c'est la côte de la mort qu'on appelle, mais c'est les vagues sont extraordinairement puissantes. On assiste au coucher de soleil, on assiste au lever de soleil, on entend les oiseaux, on respire, le monde, il est calme, le monde, il est en admiration et en réflexion. Finistère, c'est un magnifique village plus touristique. On vit le touriste plus. C'est très, 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 très beau. Mais finir là, il manque, à mon avis, le côté d'introspection, le calme, que les yeux ne voient que les éléments. Là, ça va nous amener. Mais quand on voit des autobus, du monde, on est encore pas loin du téléphone cellulaire, hein? Alors, donc, nous, on dit Santiago de Compostela, c'est magnifique. C'est ce qui motive l'humain à se rendre à ce point important. Mais arrêtez là, c'est beaucoup trop de stimulation sensorielle. On continue après Santiago. Là, c'est la nature. Le chemin, il est extraordinaire. C'est beaucoup ce qu'on recherche, d'ailleurs, quand on va faire Compostelle. Les arbres, les sentiers, les eucalyptus qui dansent, c'est magnifique. On ralentit le pas.
C'est la paix, c'est la sérénité.
C'est la paix, le vent. Puis là, on arrive à l'océan. C'est fantastique, Finistère, mais on continue jusqu'à Moshia.
J'aimerais vous entendre toutes les deux parler de la distinction que l'on peut faire entre Compostelle et de longues randonnées, mais un peu partout dans le monde, même au Québec. On a une espèce de réseau Compostelle-Marché Autrement au Québec. Quelle est la grande, ou quelles sont les grandes distinctions entre Compostelle et ces autres grandes randonnées?
La marche de longue durée, c'est extraordinaire. Moi, j'aime bien dire, si on a l'opportunité de marcher, alors marchons. Marchons seuls, marchons ensemble, mais marchons. Les chemins au Québec, il y en a plusieurs, effectivement. Comme vous dites, Denis, le répertoire, il est sur Marché Autrement au Québec. C'est vraiment extraordinaire. Il y en a tout plein. Il y en a une trentaine et plus de sentiers inspirés des chemins de Saint-Jacques-de-Compostelle. Il y a des personnes qui sont parties faire le chemin en Europe, puis reviennent, puis ont le goût de redonner au suivant de cette façon-là. Mais c'est faux de dire que ce sont des chemins de Compostelle. Compostelle, ça se trouve en Europe et ça se termine en Espagne. Et il n'y a personne qui peut dupliquer cet état-là. En Europe, sur les chemins balisés par une flèche, c'est la planète Terre qui connaît ces sentiers-là. Et on se retrouve entouré de l'international quand on est en Europe. Alors, on peut s'arrêter à une étape, puis là, il y a les Allemands, les Italiens, les Asiatiques, il y en a partout. Et on continue toujours par en avant avec cette énergie, cette vague humaine, cette vague extraordinaire d'énergie qui vient de partout dans le monde. On peut être assis à une table avec plein de monde qu'on ne parle pas la même langue, mais c'est drôle, on arrive à rire quand même. Au Québec, on va marcher. On va arriver dans un café, mettons qu'il y a une télévision d'allumée, on sait où on est, on n'a pas perdu nos repères, on n'a pas l'international, on ne s'en va pas tous à la même place, il n'y a pas autant de marcheurs, c'est pas du tout la même énergie. Les bienfaits sont, physiologiquement parlant, identiques. La sérotonine, l'endorphine, les hormones de grâce à l'activité physique sont là. Mais il y a le côté émotionnel qui n'est vraiment pas la même chose. Alors moi, je dis oui, go, marcher au Québec, c'est extraordinaire. Marcher au Canada, c'est fantastique. Marchons, c'est la santé, mentale. Un psychiatre me disait un jour, continuez votre beau travail, Madame Saint-Hilaire. Une heure de marche par jour, c'est un antidépresseur de moins de prescrits. Je ne rentre pas sur ce chemin-là, là, mais au moins, ça motive. C'est la santé mentale. Compostelle, mais là, c'est le summum de l'énergie, de la rencontre. Et d'une étape à l'autre, on va toujours par en avant et on revoit ces gens-là aussi. Et ça peut faire 2 mois que la personne marche, 2 semaines, mm-hmm. 1 an.
Oui.
Et il y a vraiment une énergie qui se ressent autour d'une table, dans un restaurant, dans un café. Les habitants aussi sont là avec nous.
Et j'aime beaucoup l'expression que vous avez utilisée dans une autre conversation, c'est une vague énergétique.
Une vague énergétique, oui.
Vague énergétique.
Ouais, définitivement. Ouais. De l'international, de pèlerins. Les habitants vont nous dire, mettons qu'on sort un peu du chemin parce qu'on n'a pas vu la flèche. Hé, hey, le camino,
Pellegrin, c'est
pas
le gars.
Si, si, por aquí. Et buen camino.
Oui.
Hé, hey, on
oui.
entend ça. À tous les jours, buen camino, ça veut dire bon chemin. Au Québec, on n'entend pas, hey, bon voyage, ça nous manque.
Un jour, je marchais et il faisait plus de 40 degrés. Et alors qu'on arrivait peut-être là, 30 minutes plus tard dans un petit hameau, il y a une dame âgée qui est sortie de sa maison et qui a couru à travers la rue et qui me disait quelque chose en espagnol. Et évidemment, j'ai pas compris. Et je lui ai dit, désolée, je ne comprends pas. Et elle me dit, ah, vous parlez français. Mais ça, c'est de marcher. Il fait trop chaud. Alors, oui. Et c'est là que j'ai réalisé que la plupart des personnes qui de 50 ans ou 60 ans et plus parlent français parce que le français était enseigné à cette époque-là. Et après l'époque de Franco, plusieurs personnes, ou à l'époque de Franco, plusieurs familles espagnoles se sont expatriées en Suisse ou en France. Et ils ont aussi appris le français. Oui. Donc, ça crée un pont aussi entre les générations. Et moi qui utilisais l'anglais au départ pour essayer de comprendre et de me faire comprendre, je me suis rendu compte après quelques jours dans un hôtel à Playa Lagostera, à côté de Fisterra, que les propriétaires parlaient français. Alors, mais la différence entre le Camino français et le chemin de Compostelle, c'est que l'énergie que ça te donne de marcher sur des chemins, des routes romanes, oui. des chemins, les pierres ont été posées là, il y a des millénaires par les Romains, des églises, des petites chapelles qui sont plusieurs fois millénaires, qui sont en train de s'enfoncer, s'enliser là, dans la terre.
On voit vraiment... même sur le Camino portugais les roues des chars de l'époque. Quand tu t'arrêtes, puis tu te dis « waouh ».
Si je comprends bien, et je reviens à votre point de tout à l'heure, les communautés font partie, les habitants font vraiment partie de l'expérience du Compostelle qu'on ne retrouve pas nécessairement ailleurs. C'est ce que vous me dites.
Absolument. Le chemin, il est comme gravé, pas juste au niveau des flèches, mais dans la communauté. Et les gens sont heureux de nous accueillir. On fait partie du courant. Le courant énergétique que je parlais tantôt fait même partie des habitants. Et perdre ses repères là-bas, c'est fantastique parce que tu perds tes repères, mais tu suis une flèche. Donc, ton cerveau, il est tellement en vacances. Ça fait tellement du bien.
Puis, ça fait du bien.
Dieu sait qu'avec le téléphone cellulaire, justement, et tous les médias sociaux, les ordinateurs, tirons la plug, allons marcher sur Compostelle.
Alors, tirons la plug, comme vous dites, pour une petite pause et nous revenons tout de suite. Nous sommes de retour avec Anne Saint-Hilaire et Martine Noëlma. J'ai une autre grande question que vous pouvez élucider, je pense, très rapidement. On peut le faire seul, on peut le faire à deux, on peut le faire en groupe.
Oui.
Quelle est la différence si on le fait seul, par exemple? Quels sont les avantages, désavantages?
Moi, je ne l'ai pas fait en groupe, bien que... Lorsque je l'ai fait seul, il y a quand même d'autres marcheurs qui se sont greffés là, de Suède, de Hollande, d'Allemagne, de France. Mais peu importe qu'on soit seul ou accompagné, ce qui est primordial, et Anne l'a déjà mentionné, c'est de marcher à son rythme propre. Lors de ma première marche, je me suis blessée un genou la première journée. Si j'avais été seule et que je m'étais écoutée, je me serais arrêtée pour la journée, pour laisser le temps à mon genou de se replacer. Mais non, j'ai continué la marche avec mon mari pendant encore plusieurs heures.
Oui. Et effectivement, on le dit aux gens, si on part en couple, laissez-vous l'espace. C'est bien important. Parce qu'il n'y a aucune mauvaise façon de le faire. Qu'on parte seul, en couple, en groupe, faites-le, point à la ligne. Arrêtez-vous pas à dire, c'est mieux ça que ça. Et ce qui est important, c'est de toujours ne pas s'oublier. Et justement, le rythme qu'on va donner à notre marche va être super important. Si on est en groupe, on le dit, nous, ne fermons pas le groupe. Laissons rentrer l'international au travers de tout ça. Et c'est pas qu'on marche ensemble. C'est comme un accordéon. On est sur le même chemin. Et ça s'étire, ça se retrouve. Tu sais, on a à peu près faim tout le monde en même temps pour dîner. Hein? Et c'est-tu drôle, garde, il y a un café à bonne heure. On va se retrouver, là, c'est normal. Et après ça, il y en a qui vont partir plus vite, je veux dire plus tôt. D'autres vont prendre plus de temps. Et ça, c'est super important. Puis si je peux amener un point, un message à passer, je le redis, le marcheur, il n'y a pas de chemin, il se fait le chemin en marchant. Le stress des hébergements, on travaille beaucoup là-dessus actuellement à cause de la pandémie, entre autres. Ça sert à rien d'arrêter à une heure de marcher, de stresser, là, de partir tôt. Il fait noir, je veux être sûre d'avoir une place. Là, vous avez tout mis une mauvaise essence dans votre corps du stress de chercher l'hébergement puis d'arriver très tôt. C'est sûr que nous, on aime bien dire, ben, prends ton temps. Moi, je fonctionne avec réservation tout le temps, alors j'ai toute la journée. Et j'aime beaucoup la pochette de votre livre, La petite fille qui est dans la forêt. Je me retrouve comme ça tellement. Quand on sait où on va dormir, on n'a pas le stress. Et là, on prend tout notre temps et on avance comme le petit dans la forêt.
Martine, vous me disiez, par contre, ou quand même, que lorsqu'on est seul, au retour, très difficile de parler de son histoire, de raconter son histoire. Elle est tellement émouvante, tellement intense, tellement profonde.
Oui, ben moi, j'ai eu la chance quand même de pouvoir la partager avec mon mari parce qu'il avait déjà vécu une première expérience et que j'ai marché sur le même chemin. Mais par contre, j'ai connu un écrivain français qui, lui, a fait Compostelle à partir de sa maison, de son domicile. Il est sorti de chez lui à Nancy et il a marché jusqu'à Compostelle. Et quand il est revenu et qu'il était transformé et qu'il était plein de choses à raconter, ben son épouse, il a frappé un mur.
Oui.
Elle n'avait pas l'ouverture pour écouter ce qu'il avait vécu.
Oui.
Et ça, c'est ce qu'il a trouvé le plus difficile, lui, ça a été le retour.
On a eu une jeune cliente dans la trentaine. Je ne savais pas comment fermer le robinet de ses larmes. Ouf. Parce que justement, son conjoint ne saisissait pas ce qu'elle venait de vivre. Je veux plus de télé, je veux plus de voiture, je veux plus de téléphone. Et lui, il n'a pas vécu le dehors, parce qu'on est dehors tout le temps. Là.
C'est un peu ce que vous disiez, Martine. Oui. On retrouve l'essentiel.
Oui. Oui. Moi, les deux fois où j'ai fait le chemin, je dirais que j'avais peut-être je trouvais une certaine tristesse ou une certaine lourdeur à chaque jour parce que je savais que j'arrivais au terme de la marche. Si j'avais été magicienne, j'aurais ajouté des kilomètres, j'aurais ajouté des jours et des jours et des jours. Et quand je suis revenue à la maison, bon, maison unifamiliale, trois étages, deux personnes dans la cabane, il y en a des choses.
Les garde-robes,
c'est ça. Ça a été une lourdeur extrême. Et j'ai vraiment commencé à élaguer et à élaguer.
En quelques mots, quels sont vos meilleurs moments?
Sur le chemin?
Oui.
Être dehors.
Ah oui.
C'est, on est dehors, on est comme un enfant, pareil comme un enfant. Tu sais, quand on était enfant, rappelez-vous, on joue dehors. Et tu sais, de notre époque, là, pour nous punir, ils nous rentraient en dedans. Hein? Aujourd'hui, on dit « va jouer dehors ». Non! D'être dehors, de manger quand t'as faim, de dormir quand t'es fatigué, de t'arrêter, de rencontrer des nouveaux amis, en fait, parce qu'on s'en rencontre tellement du monde tout le temps.
Ouais.
D'être dans l'émerveillement continuel. Les sens sont continuellement sollicités de façon positive. Et quand on revient, on est en dedans. Et ça, c'est vraiment difficile.
Puis au terme de chaque journée de marche, quand on s'arrête dans une pension ou dans un refuge ou peu importe, la première chose qu'on fait on va acheter des provisions et on achète évidemment de la bière ou du cidre.
Oui.
Et là, on lave nos sous-vêtements et nos chaussettes et on va s'asseoir en compagnie d'autres pèlerins et on déguste une bière et là, on parle dans la langue de notre choix, mais on réussit toujours à se faire comprendre.
Oui.
Ça, c'est un sentiment de plénitude et d'accomplissement chaque jour.
Il y a une cliente qui n'avait pas assez bu d'eau et qui faisait très chaud et justement, elle est partie un peu en déshydratation. Alors, je savais qu'il y avait une pharmacie pas loin. On arrivait à Santiago et la pharmacienne dit « Go, il y a un bar, bière et chips. » Bière et chips, c'est une pharmacienne qui a dit ça.
Du liquide, du sel, du sucre.
C'est les glucides, le potassium et le sel, ce qui est important après avoir marché 20 km.
Ouais. Vous le referiez, le Compostelle?
Oui. Ah, je suis toujours...
Quel enthousiasme!
Ça fait 9 fois que je fais le portugais, je vais le faire 10e fois. J'ai fait tellement de chemin et ça me manque. Et la pandémie, c'est vraiment quelque chose qui nous a privés d'un bien-être mental, physique, émotionnel. Oui.
Tu vois, moi, j'avais toujours voulu le refaire après être revenue en 2005. Et une journée, l'Université de Regina m'a invité à faire une présentation sur mon camino au Faculty Club. Et là, l'échange a été tellement extraordinaire que le lendemain, j'ai réservé mon billet d'avion pour y retourner. Alors, peut-être que le fait d'en parler aujourd'hui va faire que dès que je vais rentrer à la maison, je vais finalement bloquer des dates et y retourner.
Mais je pense qu'en parler nous fait revivre et on nous ramène au chemin.
Oui.
Je pense qu'on pourrait vraiment s'étendre très longtemps sur le sujet. Malheureusement, le petit chrono nous poursuit. Alors, je dois vous remercier beaucoup et dire à nos chers amis à l'écoute que c'est ainsi que se termine notre émission d'aujourd'hui. Je vous rappelle que Marcher vers le bien-être vous est présenté les mardis à 22h et en reprise les mercredis à 11h et les vendredis à minuit. Vous pouvez également écouter les émissions en direct sur le site de Radio VM ou grâce aux émissions archivées sur le site sous l'onglet « Archives ». Aussi sur le site jemarchepartout.com sous l'onglet Radio VM. Je tiens à remercier encore une fois notre belle visite d'aujourd'hui, Martine Noëlma et Anne Saint-Hilaire. Et aussi Pierre Degagné à la technique pour sa magnifique complicité. Merci beaucoup, Pierre. Merci à vous toutes et tous d'avoir été des nôtres pour marcher vers le bien-être. Je vous laisse avec cette pensée de Saint-Augustin reprise en ouverture du livre de Martine, justement. « J'ai parcouru les bourgs et les places publiques et je n'ai pas trouvé, parce que ce que je cherchais en vain, il était en moi. »
Oui.
À la prochaine. Merci beaucoup.
Merci à toi.
Merci. Merci.